Merci messieurs d'être là. Vous êtes là tous les trois. Ça tombe bien. C'est parfait. Pour ou contre la mort, un titre d'un livre paru aux éditions Slatkin avec votre participation et d'autres, dont Frédéric Beder, mais aussi Plonk et Replonk, Philippe Tesson et d'autres. Pourquoi ce livre, Vincent? Quel était l'élément de départ? Est-ce que c'était les questions que se posait justement Lucie par rapport à la mort qui vous ont inspiré? Et d'autres, je suppose.
Non, pas vraiment. C'est des questions un peu sur la technologie qui m'ont inspiré. Et puis on s'associe avec Nicolas et David parce qu'on travaille un peu sur ces questions ensemble. C'était lié à une première exposition qu'on avait faite avec la ville de Genève, l'exposition Open End, où on avait travaillé dans le cimetière des rois même, en travaillant sur l'art contemporain, en se questionnant un petit peu sur les questions de futur et de passé et de mémoire. Mais la question qui personnellement m'avait intéressé puis encouragé à essayer de faire un ouvrage avec mes camarades là-dessus, c'était la question de la technologie qui fait que l'immortalité devient une question un peu tangible, et puis ce fantasme qui est probablement né avec la conscience, ce fantasme délirant de l'immortalité partiellement, tangiblement, éventuellement résolu, en tout cas des propositions très tangibles de résolution de la finitude sont en train de s'installer avec la technologie. Je pense que ça pose une nouvelle question philosophique.
Alors justement, vous vous posez la question dans votre article ou dans votre passage du livre avec le titre « Guns N' Roses ». Vous nous dites « Homo sapiens, c'est lui maintenant qui défie la grande faucheuse. Il semble que l'humain ne veut plus attendre ». Il ne veut plus ou ne peut plus attendre, selon vous, Vincent, par rapport à cette course contre la mort, on va le dire.
Ouais, moi je pense qu'il veut plus parce que la technologie est en train de proposer des solutions où finalement on n'est plus obligé d'attendre que la nature nous adapte pour nous faire évoluer, mais que éventuellement la technologie nous donne les moyens de prendre en main notre destin pour faire une évolution à dessein, ce qui est très nouveau. Et je pense surtout que derrière cette question philosophique assez nouvelle, qui est toujours intéressante parce qu'il y a finalement assez peu souvent de nouvelles questions philosophiques, parce que la question de l'immortalité, ça va poser des problèmes philosophiques, mais aussi très très pratiques, hein, parce que si on s'arrête plus de vivre, ça va être très très compliqué sur plein de nouveaux sujets. Mais surtout, je pense que ça pose la question de l'eugénisme. Et où c'est intéressant, c'est que l'eugénisme finalement avait été un peu enterré avec la fin du nazisme. Et finalement, on se retrouve face à une technologie qui propose un eugénisme un peu doux, un peu une technologie qui nous séduit parce qu'elle amène tout un tas de gadgets. Et puis, finalement, au lieu de faire un travail un peu collectif, comme le ferait la religion, on se retrouve, où l'eugénisme détail, idéologique, on se retrouve face à une proposition très, très individualiste qui offrirait à tous la possibilité de rester un peu plus longtemps ici au soleil sur la plage, plutôt que dans un paradis promis qu'on n'est pas du tout sûr qu'il existe.
Donc, si j'ai bien compris, ce qui vous a, vous, interpellé, c'est le fait que l'humain, ce que nous sommes devenus de l'Homo sapiens, mène sa course contre la mort avec des nouvelles technologies. Et ça, c'était votre sensibilité à cette problématique. Et vous, David Rudroff, c'était quoi exactement? Vous êtes pour ou contre la mort, vous? Bonsoir.
Bonsoir. J'en sais rien. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Je suis ni pour ni contre. Le point de départ de tout ça, pour moi, c'est parce que j'essaie de développer des modèles inspirés de la psychologie qui pourraient peut-être un jour me permettre de faire des êtres artificiels qui nous ressemblent et potentiellement qui puissent aller se balader dans l'espace ou faire d'autres choses qui aillent plus loin que ce qu'on peut faire avec notre condition humaine. Mais en fait, donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai été interpellé pour ce livre. Mais pour moi, ça a finalement été l'opportunité d'écrire une lettre à mon fils, qui est né il n'y a pas très longtemps, pour lui parler de ses ancêtres, pour lui parler de l'expérience de la mort, et puis et pour lui dire que ça donnait envie de vivre, qu'il soit là.
Mmh. Oui. Vous dites « J'étais enragé contre la mort et contre la vie qui nous l'imposait. La mort fait partie de la vie, c'est la nature, et ça me semblait la pire des ruses de l'esprit. J'avais presque renoncé, mais la révolte, c'est la vie. » Qu'est-ce que vous entendez par « la révolte, c'est la vie » ?
Ah ben, que justement, quand on en arrive au renoncement, alors ça peut avoir beaucoup de signification, mais bon, ce que j'écrivais là, c'est des choses que j'ai vécues de façon récurrente au cours de ma vie et qui, je pense, sont assez universelles, surtout quand on est confronté à la mort de façon très concrète. Eh bien, il y a quelque chose en nous qui malgré tout, nous pousse à vivre et qui fait qu'on se révolte contre même les choses les plus sombres. et qu'il y a une forme de résilience, il y a une forme de magie.
Et vous, Nicolas Capte, comment dire, vous avez préféré éluder la question, à savoir si vous êtes pour ou est contre la mort?
Alors, je ne sais pas si j'ai préféré éluder la question. Alors, peut-être qu'il y avait un petit peu de l'exercice rhétorique de l'avocat qui finalement est appelé à défendre une cause et son exact contraire. Mais c'était aussi l'occasion de montrer qu'il y avait de bons arguments d'un côté comme de l'autre et qu'au fond, c'est toute l'ambivalence qu'on a au rapport avec la mort. Parfois, on la déteste et en même temps, on comprend sa nécessité, on comprend qu'elle finalement elle a une fonction de régulation, qu'elle par effet de contraste, qu'elle illumine la vie. Et finalement, ce n'est donc pas qu'un exercice rhétorique, c'était aussi l'idée de, vraiment de voir quels sont les arguments. C'est pour ça qu'on a beaucoup de peine. C'est un sujet, finalement, comme ça a été expliqué par mes deux camarades, finalement, on pouvait difficilement avant être contre la mort. Et ce qui a un peu changé, c'est l'avènement de technologies qui permettent, en tout cas, qui permettent d'imaginer qu'on pourra un jour vaincre la mort ou la repousser dans ses extrêmes limites. Et donc, finalement, ce rêve-là, alors qu'il soit un rêve, un beau rêve ou un rêve empoisonné, pourra finalement s'ancrer dans une certaine réalité. Donc, je dirais que c'était aussi un peu l'idée du livre d'explorer sous divers angles avec des personnes de différents d'horizons complètement différents. Enfin, évidemment, des horizons très différents avec Frédéric Becbédé, disons voilà, qui est l'ancien jet-setter parisien, Philippe Tesson qui a 93 ans, qui finalement la mort pour lui est quelque chose de, disons, qui conçoit comme étant évidemment plus proche. Donc on voulait avoir ces différentes visions, ces différents artistes qui proposent une vision et sans aucune vocation d'avoir une sorte de manuel ou d'avoir une sorte de tour d'horizon complet. C'était au contraire finalement quelque chose d'un peu de l'ordre du patchwork, un peu éclaté, mais qui finalement donne un petit peu certains éclairages et des touches positives, des touches plus sombres, mais finalement c'est un peu notre rapport à la mort, c'est un peu tout cet univers.
Vous avez remarqué les uns et les autres que quand on parle de la mort, on parle souvent assez compliqué. Et pourtant Voltaire disait clairement, et vous le citez Nicolas Capte, hein, Voltaire disait clairement, il ne fallait jamais penser à la mort puisque cette pensée n'était bonne qu'à empoisonner la vie. C'est pas aussi simple que ça, non?
À qui vous avez dit,
c'est égal. On peut reprendre avec vous, Vincent.
Oui, moi je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que probablement la question de l'immortalité ne résout rien du tout, parce que finalement, ce qui est assez extraordinaire dans la vie, c'est ce cadeau composé de la conscience qui à la fois nous fait comprendre, percevoir, concevoir la finitude et la magie de la vie, mais en même temps nous fait comprendre que ça va s'arrêter. Et donc, si ça ne devait de plus s'arrêter, on se retrouverait justement à gâcher les plaisirs du temps qui passe, c'est-à-dire la beauté de la jeunesse où l'éphémère fait partie de cette chose précieuse. Et si cet éphémère n'est plus éphémère, alors le précieux s'en va avec. Et je pense que c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire avec ce livre, à savoir que il ne s'agit pas du tout de redire ce qui était déjà dit par les philosophes depuis 10 000 ans, mais c'est juste de montrer que finalement, avec une technologie qui change, on peut avoir un regard assez nouveau et différent sur ces questions. On peut revoir les choses, on peut rediscuter, parce que la question de l'immortalité va probablement amener d'autres questions sur lesquelles on s'était peu penché. Et ça va dire aussi des questions très, très pragmatiques, hein, de surpopulation, de passation, les générations, de passer plus de temps avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre, finalement. Si on vit jusqu'à 150 ou 200 ans, on aura passé tout à coup que 20 ans avec ses propres enfants. Et tout ça, des questions qui sont très, très concrètes.
Et donc, alors, je vais vous poser
très concrètes et fantasmées, mais qui est intéressant.
Moi, je vais vous poser des questions très concrètes parce que c'est la ligne de cœur. Vous avez peur de la mort, Nicolas? D'autant plus après avoir participé à l'écriture d'un livre pour ou contre la mort.
Alors, je ne sais pas si je crois que j'ai raisonnablement peur de la mort. Je pense qu'elle ne me terrifie pas, mais je ne peux pas dire avoir un rapport apaisé comme certains ont avec la mort. Peut-être ça vient avec l'âge. J'ai probablement moins peur de la mort maintenant que j'ai une petite fille. Et il y a une forme de transcendance et je pense que probablement si je vais le graduer, j'ai une peur de la mort qui est moins importante qu'avant. Mais je pense qu'on a tous peur de mourir à un point ou un autre. Et je voulais quand même juste rebondir sur Voltaire. Vous disiez qu'il disait qu'il ne fallait jamais penser à la mort parce que cette pensée n'était bonne qu'à empoisonner la vie. C'est très juste, mais vous noterez qu'il s'y penchait quand même. Il écrivait quand même sur le sujet, donc finalement, il donnait des conseils qui ne suivaient pas en intégralité, visiblement. Donc ça montre bien la difficulté qu'on a de finalement de se dire on n'y pense pas, mais en réalité, moins on essaye d'y penser, plus on y pense.
Et vous, Vincent, quel rapport vous avez personnellement avec la mort? Et puis David, je vous poserai la même question, finalement.
Alors moi, bien sûr, j'ai peur de la mort, j'ai peur du temps qui passe, j'ai même peur de vieillir. Personnellement, je trouve ça difficile, mais je pense que ça fait partie, on peut avoir un rapport plus ou moins apaisé à ces questions-là, mais la vérité, c'est que je pense simplement qu'on est équipé pour survivre, et par conséquent, si on n'avait pas peur de la mort, on serait toujours dans des comportements qui seraient un peu suicidaires. Donc ça fait partie de l'équipement biologique, c'est ça qui est intéressant dans cette question, ça, parce que l'équipement biologique nous pousse à craindre la mort, à essayer de la prolonger, et c'est ce qui est très très nouveau, c'est qu'on se retrouve dans un état où on va y arriver. Mais évidemment que c'est dans ce débat-là qu'est née la proposition d'immortalité, parce que si on n'en avait pas peur, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas recherché à faire.
Bien sûr. Bonne remarque, ouais. Et vous, David Rudolph, vous avez quel lien, quel rapport à la mort?
Oh ben, un lien paradoxal, hein. Un lien de peur terrible pour moi-même et pour les autres, et pour l'avoir vécu plusieurs fois à travers des membres de ma famille ou des amis qui sont morts. Depuis très jeune jusqu'à plus récemment, et puis en même temps une sorte d'apaisement aussi face à ça, comme sinon une nécessité, quelque chose d'inévitable, un mauvais moment à passer, et avec en même temps un petit pincement au cœur pour la perte qu'il y a là-dedans entre les uns et les autres, et pour les enfants qui viennent, pour les enfants qui ont perdu leurs parents, pour les enfants qui ont à reconstruire, revivre, être confrontés à tout ça, donc des projections aussi vis-à-vis de la mort des autres, comme quelque chose qui et de la pensée chez les autres de la mort des autres, comme quelque chose que je trouve est source de souffrance et en même temps de poésie, mais j'ai pas de réponse.
Il y a deux textes qui s'opposent quand même très fortement, même s'ils peuvent être complémentaires. C'est celui de Frédéric Becbédé et celui de Philippe Tesson. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Vincent, de ce que conclut à son texte Philippe Becbédé? La liberté, vite, elle est plus importante que la longévité. Nous avons besoin de la mort pour vivre. Avant cela, il fait tout un argument pour critiquer évidemment les mesures sanitaires qui ont été prises. Mais ça, on l'a déjà entendu à la télévision plusieurs fois le dire. Donc, je n'ai même pas besoin de le préciser. Il le dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? La liberté est plus importante que la longévité. Nous avons besoin de la mort pour vivre.
Écoutez, d'abord, il faut peut-être dire très très brièvement comment on a pensé à lui et comment à le faire joindre à cette aventure. C'est-à-dire que lui, il avait écrit un livre il y a 2-3 ans qui s'appelle « Une vie sans fin ». Et c'est en lisant ce livre que j'avais eu envie de contacter Nicolas, qui le connaissait, qui avait travaillé avec lui dans le cadre de son semestre sur l'intelligence artificielle. Et ce livre est très très malin et très très touchant, parce que c'était à la fois quelqu'un qui essaye de tout faire pour ne pas mourir et qui fait le tour du monde pour essayer toutes les nouvelles technologies qui lui permettront à lui et à sa famille proche de survivre le plus longtemps possible, d'échapper à tout. Il se trouve lui-même piégé finalement, parce que à la fin de ce livre, il y a un trafic sur le sang, etc. Et peu importe, il finit par mourir un peu plus vite que prévu, mais c'est à la vision de ses enfants, à la fin du livre, sur le quai de la gare, qui lui fait comprendre que finalement, c'est en vieillissant qu'il peut voir grandir ses enfants. Et c'est dans ce paradoxe-là, je trouve, qui est très très explicite, à savoir cette envie de survie qu'on a tous, et puis un signe des temps, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse finalement par rapport à cette question-là, parce que sinon, on va répéter plus mal ce qu'ont dit les philosophes depuis des milliers d'années, comme j'ai déjà dit. C'est plutôt que les temps nous permettent de réfléchir à ces questions différemment. Et les temps sont plus individualistes qu'avant, probablement. On est moins religieux, d'ailleurs, je suis le premier à ne pas l'être, mais on est dans une philosophie probablement quotidienne qui consiste à dire tout de suite et maintenant, profitons pendant qu'on est là. Et je pense que lui, il s'inscrit exactement en faux sur ces questions-là. Et pour nous, c'est pas tellement Philippe Tesson qui s'oppose à ce texte-là, c'est plutôt Cléo Collomb, qu'on avait invité en tant que philosophe transhumaniste, qui, elle, avait pris la posture en tant que philosophe des transhumanistes qui disent « vive la fin de la mort ». Et donc, c'était un petit peu ça la structure du livre, quelqu'un qui était pour et quelqu'un qui était contre. Et c'est un peu ces deux textes-là qui étaient un peu les textes de l'ossature principale du livre.
Merci d'être venus en parler tous les trois, pour ou contre la mort, à découvrir absolument, paru aux éditions Slatkin. Une bonne soirée, messieurs, merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir accueilli.
Au revoir. Merci.